Polysécur, épisode spécial ITSEC. Je suis avec Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, premièrement, merci de me recevoir. Mon nom est Frédéric Bernard, président fondateur de l'entreprise Secure01. C'est une entreprise, ça fait 12 ans qu'on est dans le milieu de la cybersécurité au Québec, puis on est vraiment là. Quand j'ai fondé l'entreprise, l'objectif, c'était d'amener la cybersécurité accessible à la PME. On se cachera pas que des joueurs dans le milieu corporate et entreprise, grande entreprise, il y en a depuis des années, mais c'est vraiment depuis, je te dirais, 5 ans et un peu moins que les PME réalisent que la cybersécurité est importante. Fait que nous, on est vraiment là pour être capable de venir les supporter dans cette réalité-là. Puis on y était même avant que les entrepreneurs des PME du Québec y soient. Fait que ça fait en sorte qu'on est prêt, on les supporte. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients actifs partout au Canada, États-Unis, Europe, avec qui on travaille pour être capable de les supporter dans leur réalité de PME.
C'est cool. Tu viens présenter à deux conférences et là, spoiler, on ne parlera pas vraiment de ta conférence parce que justement, le but, c'est que les gens viennent la voir, viennent y assister parce que ça va être super intéressant. On va aborder un sujet qui est connexe, c'est essentiellement l'état du marché puis un peu le fait que la cyber est quand même un milieu de spécialisation. Fait que je vais te laisser commencer avec ça.
Oui, bien, tu l'as bien dit, la cybersécurité est un milieu de spécialisation. Tu sais, quand on revient là, back in the time, dans les années 2000, là, faire du TI, c'était être capable de faire des sites web, être capable de réparer des ordinateurs, d'installer des imprimantes, être capable de maintenir des mainframes. Fait que pour ceux qui ont des cheveux blancs, ben ça pourrait peut-être rappeler des souvenirs. Mais respect à ceux qui ont des cheveux blancs qui nous écoutent aujourd'hui. Mais il en reste que c'était tout ce qui était relié à l'information au niveau numérique. Aujourd'hui, quand on parle des TI, la majorité des personnes vont penser c'est bon tout ce qui est logiciel, tout ce qui est cloud. Et le milieu de la cybersécurité est en train de se découper de ça, comme le milieu du multimédia s'est découpé de ça il y a de cela quelques années, parce que le monde s'est rendu compte que installer un serveur avec un contrôleur de domaine, puis développer un site web ou une application, puis après ça, l'héberger sur son serveur, c'est pas nécessairement la même spécialisation. C'est un peu là où le marché est en train de se diriger aujourd'hui. Quand on regarde tous les cadres de contrôle qui ont été publiés dans les dernières années au niveau de la cybersécurité à l'international, quand on regarde tous les experts en gouvernance de la sécurité de l'information qui dit très haut et fort et qu'ils publient les personnes qui exécutent les technologies de l'information au niveau opérationnel dans les entreprises ne devraient pas être ceux qui se surveillent eux-mêmes au niveau de la sécurité de l'information, parce que tu peux avoir les meilleures intentions du monde, tu vas toujours avoir le problème que tu vas manquer d'objectivité sur les propres activités que tu vas faire, ce qui est l'essence même d'être un être humain. On est super bon pour être capable d'évaluer un paquet de trucs, mais on est rarement bon pour être capable de s'auto-évaluer d'une façon critique et juste par rapport aux actions qu'on va faire. C'est un peu là aussi qu'on en est rendu aujourd'hui. Et si on regarde les derniers rapports...
Je vais prendre faire un petit aparté là-dessus. Puis c'est un peu ce qu'on a vu dans le monde du développement depuis déjà très longtemps, où tout le contrôle qualité arrive après et c'est pas les mêmes équipes qui font le contrôle qualité du code qui sort, et on voit où les compagnies qui en mettent plus de contrôle qualité que d'autres, mais c'est justement cette distinction-là entre les équipes qu'on devrait avoir aussi avec l'effet de la cybersécurité et les TI en général, où on travaille effectivement en collaboration, mais c'est pas les mêmes équipes parce que un nécessairement va regarder la qualité du travail de l'autre, et comme tu le mentionnes très bien, l'objectivité est pas très élevée quand on regarde son propre travail parce qu'on aime bien ce qu'on a fait. Donc, nécessairement, on n'est pas capable de faire sortir le meilleur de nous-mêmes si on n'est pas mis en opposition face à une équipe bienveillante, bien sûr, et qui nous aide à avancer par rapport à ça. Là.
Oui, puis ça va même plus loin que ça parce que quand on regarde aujourd'hui le paradigme, puis là, je vais parler des fournisseurs de services TI externes, mais c'est vrai aussi sur les équipes TI internes. Mais quand on regarde une équipe TI, qui est composé de, bon, bien souvent, tu vas avoir un administrateur ou des administrateurs système, tu vas avoir des techniciens informatiques qui, eux, vont faire plus les travaux de terrain. Mais tu sais, bien souvent, aujourd'hui, le monde va travailler avec des billetteries. Puis là, ils vont faire, hey, c'est cool, j'ai déployé mon EDR, puis quand il y a des événements, ben, ils m'enverront un courriel dans ma billetterie, puis je le traiterai quand j'aurai le temps. Ben, le problème dans cette phase-là, c'est quand j'aurai le temps. Du moment où on sait que tu as un événement de sécurité au niveau de la cybersécurité, je prendrais l'acronyme en anglais « timing is everything », ce qu'on appelle le « dwell time », qui est le moment où on sait que tu as un événement de sécurité puis qui a été découvert et que tu vas porter action dessus. Je parle ici « en prendre connaissance » pour après ça, potentiellement prendre une action, parce que des fois, on peut avoir des faux positifs, on peut avoir juste, OK, c'est un événement à titre informatif. Ça, c'est super important. Puis dans une réalité aujourd'hui, c'est que j'entends de plus en plus de mes confrères, autant des équipes internes puis externes, on manque de ressources, on manque de spécialisation, on est débordé, on est en retard de plusieurs semaines à plusieurs mois sur les projets. La demande n'arrête pas de grandir parce qu'on se cachera pas, les entreprises depuis la COVID, c'est je veux du télétravail, je veux de l'intelligence artificielle, je veux être dans le cloud, je veux me mettre 4.0, mais tout ça amène une charge de travail. Et là, on arrive avec la couche de travail supplémentaire qui est la cybersécurité. Là, 10 à 15 ans, on avait tendance à dire, ah, on va mettre un antivirus, puis si on est vraiment hot, on va mettre un anti-spam, puis ça va faire la job. C'est à ça que se limitait la cybersécurité au niveau des PME. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. On s'entend que les vecteurs d'attaque sont de plus en plus nombreux. Et non seulement ça prend les outils pour être capable de le faire, mais ça prend aussi la connaissance. Je vais te donner une analogie, tu vas la comprendre. Tout le monde, quand il sort dehors, puis qu'il regarde le ciel, puis qu'il voit que le ciel est gris, est capable de se douter que les probabilités qu'il pleuve sont assez élevées. Pas besoin d'avoir étudié en météo pour être capable de comprendre qu'un ciel gris, vraiment gris, il y a de fortes chances qu'il pleuve, ça serait bon d'avoir un parapluie. Ça, tout le monde est capable de faire ça. Mais est-ce que tout le monde est capable de comprendre que, attends, cette pluie-là va peut-être amener des vents violents, va peut-être amener des orages, va peut-être amener, qu'importe d'autre, du verglas? Moi, je te parle de la capacité d'analyser contextuellement l'information. C'est ça qu'on perd quand on reste, si on veut, généraliste. C'est qu'on n'est pas capable de contextualiser un événement X, Y, Z qui va venir d'une source de données. On ne sera pas capable de l'apprendre et de reculer parce qu'on est formé à régler des problèmes. On est formé à s'assurer de fermer ce biais-là pour être capable d'en prendre un autre rapidement. C'est pas une question de bien faire ou mal faire, ou de bien vouloir faire ou non. C'est une question tout simplement qu'on demande à un poisson de monter à un arbre. C'est un peu l'analogie que je vais donner là-dessus. C'est tout simplement pas le même métier aujourd'hui. C'est un peu de demander à un médecin généraliste, peux-tu m'opérer au cerveau? Hey, j'ai mal à la tête, peux-tu m'ouvrir la boîte crânienne pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu sais, je veux dire, moi, si on me donnait le choix de me faire opérer par un neurochirurgien parce que j'ai des douleurs récurrentes à la tête versus mon médecin généraliste qui peut aussi me prescrire une crème parce que j'ai un rash sur le bras puis que ma peau, elle, me fait mal, mais on me dit, ah ouais, va te chercher une crème pour être capable de régler ça, ben, je vais prendre le neurochirurgien parce que c'est une spécialisation. On monte dans un monde à part. Et comme je disais tantôt, c'est autant vrai pour les équipes TI internes ou externes. C'est rendu un métier à part. Puis tu sais, je le dis, les cadres de contrôle le disent, mais tous les rapports, tu sais, on parle CDW, on parle le Verizon, le DFIR, le DBR, excuse-moi, ils le disent tout. Le nombre d'attaques a tendance dans les dernières années à légèrement diminuer, mais la portée des attaques, la profondeur dans lesquelles ils vont aller dans les entreprises, la criticité que ça va créer, elle a explosé.
Il y a des facettes intéressantes à ce que tu dis, puis j'aimerais ça t'entendre parce que là, tu parles du neurochirurgien, du médecin généraliste, et à l'heure actuelle, tout le monde se croit neurochirurgien parce qu'ils sont augmentés par l'intelligence artificielle et ça pose des défis particuliers. Puis là, je veux pas que tu rentres dans le sujet de ta conférence, mais quand même, comme tu as ouvert la porte sur cette spécialisation-là dans cet univers-là, je peux pas ne pas y aller parce que c'est un problème que je vis au quotidien. J'imagine que c'est un problème que tu dois vivre quand même relativement au quotidien aussi. Là.
Oui, ben en fait, puis comme tu dis, ça rentrait dans le nœud de la conférence. C'est aujourd'hui, c'est everything is powered by AI. Donc, on a commencé à avoir des EDR qui sont powered by AI, des anti-spam qui sont powered by AI. Mais tous ceux qui travaillent assez avec l'intelligence artificielle savent qu'aujourd'hui, à haut niveau. Là. C'est super bon pour t'écrire des textes, réécrire des courriels, faire des PowerPoint puis tout. Mais quand tu les prends, tu mets dans les tâches spécifiques, ça prend énormément de temps et de développement pour que ça te donne un résultat qui est passablement potable. Demande à ChatGPT de prendre un événement qui vient de ADR sans le connecter à toutes les sources de données, ce qui vient aussi avec des enjeux de sécurité ou autre, ou même un LLM local, le connecter à toutes les sources de données, l'entraîner à tout le reconnaître pour être capable de prendre des décisions là-dessus. C'est énormément d'heures et encore là, tout ça va se déposer sur qui va le monter et le programmer comment. Fait que ça s'est beaucoup, je dirais, normalisé. Ah, je le fais avec l'IA, puis c'est correct, mais pour ceux qui travaillent assez avec l'IA, pour ceux qui sont dans le milieu de la cybersécurité, on se rend bien compte que l'IA, oui, c'est bon. Oui, ça nous accélère. Tu sais, je veux dire, quand je faisais des analyses à travers des logs à l'intérieur d'un SIM, ce qui me prenait des fois 45 minutes parce que je devais le prendre, l'exporter en CSV parce que c'était trop long. C'était... Oui, ça, je suis capable de le faire en 2 minutes. Je suis capable de donner certaines sous-tâches à l'IA qui va optimiser puis améliorer le temps. Mais c'est pas rendu magique. Là. Je veux dire, l'intelligence artificielle dans le milieu de la cybersécurité n'est pas arrivée comme un génie où c'est qu'on frotte la lampe puis paf, ça l'illumine tout, puis on est capable de donner nos 3 vœux. Puis dans un de ces vœux-là, c'est « je veux être super bon dans tout ». Je veux dire, moi, si ça pouvait fonctionner de même, j'aimerais bien trouver une lampe, dire « j'aimerais ça devenir Warren Buffett V2 ». Puis ça serait super cool, mais ça n'existe pas. Puis si ça existe, j'aimerais bien que quelqu'un puisse être capable de me le dire, je vais la chercher, cette lampe-là.
Ah oui, effectivement, c'est tout qu'un défi, cet élément-là. Je vais te laisser continuer parce que je t'ai interrompu sur l'AI, mais tu étais parti sur une lancée sur d'autres choses aussi, fait que j'aimerais que tu recontinues dessus cette petite aparté-là.
Oui, bien, c'est parfait. On parlait ensemble, la réalité des équipes TI qui font la cybersécurité puis autres, on parle des réalités aujourd'hui du marché aussi, que le nombre d'incidents est légèrement à la baisse en quantité, mais la criticité est beaucoup plus élevé. Si on regarde aussi le temps que les attaquants sont sur le réseau, c'est de plus en plus long. Et on parle d'outils avec l'IA puis tout, puis après ça, quand il y a une réponse aux incidents qui est déclenchée puis qu'il y a une firme forensique qui débarque sur le terrain, surprise, on se rend compte que l'attaquant était là depuis 20 jours, 30 jours, 40 jours et qu'il a exfiltré des centaines de gigabytes de données. Et là, on tombe sur le classique du « j'ai 200 gigs qui ont été exfiltrés. Peux-tu me dire qu'est-ce qui est sorti? » Et là, tout le monde se regarde comme un chevreuil qui regarde la voiture, qui sont comme « oh wow, je ne sais pas quoi répondre à ça. » Donc, je me ramasse dans un paradigme où, bien souvent, les travaux de base des équipes TI, parce qu'on fait beaucoup de réponses aux incidents chez SecureZero, c'est pour ça que je le connais. Les équipes de base, les opérations de base des TI sont, ce serveur-là sert à quoi? Quel type de données qui est hébergé dessus? Même, on a eu des cas, connais-tu ton inventaire pour être capable de définir le périmètre qu'on doit circonscrire dans l'attaque? Et la personne nous regardait, elle était comme, je ne sais pas. Attends, comment ça tu ne sais pas? Est-ce que tu gères le parc TI? Oui. Est-ce que c'est toi qui es responsable de l'architecture, du design, de comment tous les systèmes sont interreliés? Oui. Puis tu me dis qu'après toutes les informations de base qu'on a, tu n'as aucune idée des informations qui ont pu être exfiltrées. Tu n'as aucune idée de telle machine sert à quoi. Tu n'as même aucune idée de quelle machine est en ligne sur le réseau. Puis ça, c'est pas arrivé une fois ou deux, c'est arrivé régulièrement. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre exemple du on veut tout faire, mais on ne fera pas tout au complet. Ce qui amène des problèmes. Puis ça amène le problème au niveau des entrepreneurs, d'un faux sentiment de sécurité. À travers mon parcours, j'ai joint l'Ordre des administrateurs agréés, puis je donne énormément de formations pour eux. Puis un dernier podcast que je donnais avec eux, puis il y a une phrase qui a fait énormément réagir positivement beaucoup d'administrateurs. Je disais, le rôle des administrateurs dans les entreprises, les CFO, les CTO, le board en tant que tel qui prend les décisions, ce n'est pas de comprendre les technologies de l'information. Tu n'as pas besoin de comprendre les TI pour être capable de prendre des décisions dessus si, un, tu as les bonnes informations. et deux, que les personnes sont capables de te le dire comme il faut. Non, leur rôle à eux, c'est d'accepter et de signer le risque résiduel qu'ils ont décidé d'accepter ensemble. Mais si on dit, je donne un exemple, c'est un classique, là. Si on dit j'ai une politique de gestion de mots de passe, puis je m'assure que password ou password 1, 2, 3 ou qu'importe soleil 1, 2, 3 ne devrait pas être mis en place sur des systèmes de sécurité, puis on dit oui, on va le faire. Ben qu'en fait, ça n'a jamais été fait. Eux, ils pensent que ce risque-là a été réglé. Oui, j'ai des sauvegardes, parfait. Ce que la personne ne dit pas, c'est j'ai des sauvegardes sur un NAS local, puis c'est pas copié ailleurs. Oui, c'est beau, je suis capable de faire ta réponse aux incidents. Super. Ce que je dis pas, par exemple, c'est que je n'irai pas contacter un avocat spécialisé au niveau de la vie privée parce que ah, c'est la personne au niveau des ressources humaines qui vient de se faire pirater. On a potentiellement de l'exfiltration, des centaines de données de personnel qui ont été exfiltrées. Puis j'ai un risque au niveau des enjeux réglementaires au Québec et je ne le sais pas. Donc, on est rendu là aussi. Tu sais, la cybersécurité, il y a des enjeux réglementaires qui font en sorte qu'on est obligé de travailler beaucoup plus proche avec les avocats parce qu'il y a des choses qui sont propres au niveau juridique qu'on ne peut pas, puis je dirais, on ne veut pas donner d'opinion là-dessus à certains niveaux. Mais c'est important de respecter, elle est où la ligne?
Oui, cette ligne-là, elle n'est pas bien maîtrisée par bien des gens. Il y en a en TI et en cyber, d'ailleurs aussi, vont par bienveillance essayer d'interpréter des choses qui ne sont pas de leur domaine et vont se mettre les pieds dans les plats. Parce qu'effectivement, quand on affronte de la perte de données personnelles ou d'autres dans d'autres domaines, parce que ce n'est pas le seul domaine qui est réglementé, là, j'imagine que tu as rencontré d'autres milieux qui sont réglementés, comme le milieu bancaire réglementé. Il y en a d'autres aussi, le NERC au niveau hydroélectrique, au niveau énergétique. Ne pas une palue comme ça. Donc, à ce moment-là, de se référer et d'aider les gens d'avoir le réflexe de se retourner vers quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là.
Oui, tout à fait. Puis, même au-delà de ça, on parle de la réglementation. Puis là, on parlait de la réglementation au niveau juridique pour, mettons, tout ce qui touche la loi sur la protection des informations personnelles confidentielles. Ça va plus loin de ça. Je vais te donner une bribe d'information que peu de personnes connaissent au Québec, mais qui est 100% en place. Techniquement, faire de la réponse aux incidents puis être la personne ou la firme qui collecte l'information puis qui raconte le storytelling de l'événement et donc qui collecte les preuves, c'est des activités d'investigation au sens de la loi. Puis ça, c'est régi par la loi sur la sécurité privée qui demande d'être une agence de sécurité privée et d'avoir des enquêteurs privés à l'interne pour être capable de le faire. Là, je te parle au niveau juridique WISE. Tu as besoin d'être une agence de sécurité privée puis d'être des enquêteurs, d'avoir des enquêteurs privés qui travaillent à l'interne pour être capable d'amener ces éléments-là puis être capable de faire ça. Donc, des firmes qui mènent ce genre d'activité-là, qui ne le sont pas parce qu'ils ne le savent pas, puis là, moi, je dirais, ben nul ne peut ignorer la loi même si tu la connais pas. Puis, tu sais, on connaît tous un avocat à un moment donné qui nous a dit, ouais, t'as pas le droit de violer une loi même si tu la connais pas. Puis, je suis sûr que beaucoup l'ont vécu en faisant une infraction de l'école de sécurité routière, la police l'a arrêté, puis t'es comme, ah. Puis, sincèrement, la personne est comme, j'étais même pas au courant que je vienne de violer une loi, ben, merci du warning, puis il repart juste avec un avertissement parce que le policier fait comme, ouais, tu savais pas, tes vitres sont peut-être un petit peu trop teintées de 5%, puis je viens détester, puis, surprise, t'étais pas au courant, mais t'es illégal. Qu'a vécu. Mais l'histoire, au final, qui est en arrière de ça, c'est qu'il y a des réglementations à beaucoup de places. Ces réglementations-là sont soit au niveau juridique, pour être capable de donner des opinions juridiques, comme je parlais tantôt, au niveau de tout ce qui est protection des informations personnelles, mais au niveau, mettons, de tout ce qui est investigation, la raison du même du pourquoi il existe une loi sur la sécurité privée, c'est parce que on voulait une protection du public qui était correcte. On ne voulait pas avoir n'importe qui pouvait mener n'importe quelle activité qui est aujourd'hui régie par la loi sur la sécurité privée. Et malheureusement, j'en vois régulièrement des histoires de même. Puis tu sais, je t'en rencontre une en 10 secondes. Lorsque je me fais contacter par un partenaire qui me dit « Frédéric, peux-tu aider mon avocat à me défendre parce que moi, j'ai fait une action sur le réseau du client. Le fournisseur TI est arrivé, a supprimé toutes les preuves. Lire ici, il y avait un ransomware sur le réseau. Puis la première chose que le fournisseur de services TI a fait, c'est débrancher le pare-feu physiquement de l'électricité et donc supprimer toute la cache et toutes les informations qui auraient pu être intéressantes dessus. Supprime toutes les postes au complet pour être capable d'éliminer la cyberattaque et rédige après ça un rapport disant « Ah, mais c'est pas notre faute, c'est la faute du fournisseur tiers qui avait un nom d'utilisateur, un mot de passe qui était faible sur la connexion SSL VPN qui était sur le routeur de tête de réseau sans aucune preuve. » Et ce dossier-là a dégénéré au point justement que la personne m'a contacté parce que le jour de dossier était en train de se judiciariser. Puis que le client final, il était comme « Moi, j'ai un rapport qui me dit que c'est ta faute. » Tout le monde était comme « Ben voyons donc, ça marche pas. » Ça, c'est comme si je me levais un matin, puis Nicolas, je te disais « C'est ta faute si telle entreprise s'est faite pirater parce que j'ai décidé qu'un matin, ben dans le rapport, c'est toi que je visais. » J'ai aucune preuve, j'ai rien.
C'est moi qui mange le coup. Là.
Je me lève un matin puis je te pirate. Je me lève le matin. Mais des histoires de même, ça arrive souvent.
Oui, je vais rebondir sur le fait de protection du public, parce que les ordres professionnels sont là effectivement pour protéger le public, pour qu'on ait une garantie minimale de service ou de connaissance de la part de ceux qui nous l'offrent. On l'a notamment chez les ingénieurs, on l'a chez les médecins. On en a dans pas ni plus d'autres professions. L'autonomie, celle des enquêteurs qui est effectivement protégée. Justement parce que c'est des gens qui ont des connaissances précises et qui doivent agir sur ces connaissances-là et incidemment aider les gens. Puis là, c'est en plus, là, tu travailles beaucoup dans le milieu des PME, les propriétaires de PME n'ont pas la connaissance nécessaire et ils doivent se fier les yeux fermés à l'expert qui est devant lui. Puis là, justement, comme dans ton exemple, que tu m'as garaché devant l'autobus parce que tu étais de mauvaise humeur, puis contre moi, c'est ma faute qu'il s'est passé événement X. C'est important. Puis ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que ça fait quand même partie du milieu dans lequel on est où il y a cette espèce de dualité de vouloir et pas avoir un ordre professionnel et de comment on se positionne par rapport à cet élément-là, parce qu'il faut pas se voiler. C'est quand même la protection du public que ce qu'on fait. Puis ton exemple est un très bel exemple de ça. Là.
Oui, mais en fait, la raison même de la STIC qui reprend ITSEC cette année, c'est la volonté politique de créer une association pour après ça être capable de créer un ordre professionnel. Parce qu'effectivement, il y a toujours du monde qui sont contre. Il y a toujours du monde qui sont contre toutes les idées. Puis c'est correct. Ça prend, tu sais, moi j'ai pour dire ça prend un village pour être capable d'élever un enfant. Ça prend énormément d'opinions pour être capable de faire avancer une cause. Puis les opinions et les personnes qui peuvent être contre. L'année passée, j'ai du monde qui me dit ouais, mais j'ai pas envie que ça devienne un syndicat. J'ai pas envie que je sois obligé de payer des cotisations pour être capable d'exercer mon métier, tout simplement parce qu'il y a du monde qui veut être capable de se payer des verres de scotch à 45$ au restaurant. tu sais, il y a beaucoup d'histoires, malheureusement, de syndicats, d'associations, d'ordres professionnels au Québec qui donnent mauvaise image au pourquoi de ces organismes-là. Mais quand je parle principalement avec les personnes, le monde sont comme « Hey, ça serait le fun d'avoir un certain standard. Ça serait le fun qu'on aille des lignes directrices. Ça serait le fun qu'on puisse être capable de se partager tout le monde une certaine ligne qu'on veut ou qu'on ne veut pas franchir en tant qu'industrie pour être capable de combattre ce que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne veut pas de beaux-frères dans le milieu des TI. Moi, quand j'entends des histoires, là, hey, moi, je suis le directeur TI d'une entreprise parce que la dernière chose que j'ai réussi à faire comme projet, c'est brancher les caméras sans fil chez nous, puis mon imprimante sans fil, puis ça fonctionne. Puis je suis comme, attends, parce que t'es le fils de quelqu'un qui connaît la direction, t'es le chum ou qu'importe, là. Puis parce que t'as réussi à connecter des choses sur un Wi-Fi, ça fait pas de toi quelqu'un qui est compétent pour gérer les identités puis les risques opérationnels dans une entreprise. Je veux dire, t'as fait ce que le manuel d'emploi t'a montré à faire en 4 minutes. Congrats! T'as juste démontré à tout le monde que t'étais capable de lire en anglais, puis que t'étais capable d'appliquer ce que tu lisais. Puis que tu es capable de bien souvent, puis même plus aujourd'hui, mais historiquement, si on remonte vous le disant, tu étais capable d'aller dans un browser web puis de taper des adresses IP puis de changer ta gateway ou ton masque sur réseau, qu'importe, pour aller chercher l'équipement sur son réseau par défaut puis l'amener sur ton réseau. Mais tu comprenais pas ça, c'est parce que tu as été sur YouTube puis tu as regardé comment faire sur YouTube avant. Tu sais, c'est ça, au final, qu'on veut être capable de combattre. C'est ce qu'on on veut avoir, la volonté politique d'être capable de dire oui ou de dire non en tant qu'industrie. Le dossier Satlik est un dossier qui fait mal à tout le monde dans l'industrie. Tout le monde est comme, ouais, mais ça coûte cher. Puis Anoué, vous êtes juste des crosseurs. Combien de fois j'ai entendu ça? Ouais, mais tu fais juste brancher des fils. C'est juste 0 puis des 1. C'est juste, non, c'est tellement plus que ça. Mais malheureusement, on est dans un corps de métier qui est numérique, principalement. Oublions l'aspect là, d'installer physiquement des serveurs ou des ordinateurs. On travaille avec des données qui sont numériques, dans un monde qu'on ne pourra jamais voir de nos yeux et qu'on ne pourra jamais toucher de nos doigts. Mais pour cette raison-là, le monde va venir à ne pas comprendre ce qu'on fait, puis parce qu'ils ne le comprennent pas, n'importe qui peut devenir, je dirais pas le terme charlatan, je vais garder le terme beau-frère, mais c'est facile de dire après ça, je suis expert dans quelque chose que de toute façon, tu ne pourras jamais valider si tu n'as pas des connaissances assez avancées. Fait que l'idée de la STIC en arrière de ça, de créer une association pour les administrateurs de système, c'était une volonté de moi et de l'autre personne, qui sont Audrey et Simon David, d'avoir le pouvoir de se regrouper ensemble en tant que communauté et, je te dirais principalement, avoir le pouvoir de dire non. Non, on refuse tel type de comportement. Non, on ne traversera pas cette ligne-là. Parce que ça fait mal paraître l'industrie. Parce que à chaque beau-frère qui se dit expert en TI ou en cybersécurité, quand il échoue, parce qu'on le sait, il va finir par échouer à un moment donné, c'est écrit dans le ciel, mais c'est 100% de l'industrie qui passe après ça tout croche. Moi, je me fierai toujours, on revient du temps, là, en 2012, quand je suis rentré dans une entreprise comme directeur TI, je changeais d'emploi, et que la présidente me donne une facture pour une Switch 24 ports unmanaged vendue par leur fournisseur de services TI, 4 800 $. Quand je dis à la présidente, « Hey, donne-moi accès à ton ordinateur de son. » Je suis en entrevue là, pendant qu'on fait ça. Là, me montait, elle dit, « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Pourrais-tu nous aider? » Puis là, je suis comme, « Mais oui, je pourrais t'aider, mais je ne suis pas sûr que tu vas aimer le résultat et que je demande que la même Switch se vend chez Bureau en gros à 450 $. » Ça fait mal paraître l'industrie. Ça fait mal paraître. Et comment? Mais là, tu sais, ils sont tous de même, toujours en train d'appuyer trop fort sur le crayon. Puis après ça, quand je parle avec le monde dans l'industrie, ils sont comme, ouais, mais tu sais, nous, on est comme un plombier ou un électricien. Là, je veux dire, quand tu as des problèmes dans ta maison, là, à 3 heures du matin, puis tu as une fuite d'eau, puis que le plombier vient, puis il te dit, ça va te coûter 450 $. Le client ne s'obstine pas. Mais je connais personne qui a essayé de négocier un plombier quand il était dans le trouble. C'est la même analogie, c'est la même image, tu sais, c'est le pouvoir de se protéger en tant qu'industrie, puis d'être capable de mettre certaines lignes pour s'assurer que tout le monde puisse être capable d'opérer dedans, ce qui va de facto exclure les beaux-frères.
Oui, je suis très d'accord avec ça. Puis de toute façon, moi, ça fait 30 ans que je vis ce malheur-là, de fait qu'on a confronté entre les gens de bonne foi et ceux qui pèsent trop fort sur le crayon et justement qui abusent un peu du système. Je trouve ça une très belle initiative justement de commencer à mettre des balises, même si c'est pas comme considéré comme un ordre professionnel, mais au moins de commencer à avoir projeter une image d'intégrité va probablement faire son chemin. Puis moi, je compléterai là-dessus parce que c'est une très belle façon de terminer en justement faisant la promotion de votre association que vous êtes en train de faire grandir justement pour améliorer l'image du milieu qui a malheureusement beaucoup besoin d'amour et de redressement de l'image pour ramener tout ça. Fait que je te laisse le mot de la fin puis on va conclure sur ça.
Mais écoute, c'est super simple. Le mot de la fin, là, c'est on a besoin de vous, on a besoin de la communauté. On le fait par la communauté parce que ça fait des années qu'on entend de part et d'autre dans des conversations privées ou semi-privées. Ça serait le fun qu'on aille un bouclier qu'on puisse être capable de se protéger. Ça serait le fun qu'on puisse être capable d'avoir un représentant qui serait capable de parler avec des politiciens ou avec des journalistes ou autres, mais parler au nom d'une industrie pour être capable de dire « ça fait aucun sens ce qui vient de se produire puis c'est un gaspillage éhonté de fonds publics. » Je vise aucun système, mais on se comprend. Mais la capacité d'être capable de faire une ligne et de faire un regroupement, puis après ça, avoir un certain capital politique, ce qui permet au final d'être capable d'aller s'asseoir avec les bonnes personnes pour demander à ce qu'on ait une ordre professionnelle. Puis l'objectif de l'ordre professionnel, c'est principalement et avant tout la protection du public, de se doter d'un code de déontologie, d'être capable de se dire ça, ça se fait, ça se fait pas, ça peut se faire, ça peut se faire de telle façon. On va te donner des outils. C'est vraiment l'idée qui est en arrière. C'est l'idée que tout le monde pousse dans le même sens pour protéger notre demain à tous au niveau numérique. Parce qu'on peut, se dire, je ne suis pas d'accord avec la définition d'un technicien niveau 1 entre l'entreprise A ou B ou un technicien junior ou senior dans une entreprise qui a son équipe TI interne. On peut s'obstiner sur les définitions tant qu'on veut. On peut s'obstiner sur les taux horaires qui devraient être facturés et tout. Ça, l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est quand on dit tout le monde, ça ne fonctionne pas. Ce type de comportement-là ne devrait pas arriver. Ou je manque de connaissances et je ne sais pas où aller chercher des ressources pour être capable de me donner des bonnes idées, où est-ce qu'on pourrait pousser. C'est quand on parlait tantôt de guidelines, de bonnes façons de faire, de guides et de procédures. Ce n'est pas d'imposer des choses, c'est de donner des bibliothèques d'outils. C'est la capacité de s'asseoir ensemble et qu'on puisse obtenir au final ce qu'énormément de personnes demandent, avoir un petit peu de colle entre tout le monde dans l'industrie, d'avoir une image identique au niveau de la protection du public pour s'assurer que lorsqu'on se fait dire « de toute façon, tu fais juste brancher des fils », et qu'on puisse être capable de mettre son pied à terre, de dire « non, je ne branche pas juste des fils. Voici ce qu'on fait. » On tient littéralement le Québec numérique dans nos mains et à bout de bras, et c'est derrière le rideau que ça se passe. Je dirais, ceux qui savent, savent, et de ceux qui ne savent pas, qui pensent que c'est super simple. Mais avoir une association puis avoir un ordre professionnel va permettre d'ouvrir ce rideau-là, va permettre de démontrer certains objectifs, certaines choses de la réalité des choses, et surtout, va permettre de pouvoir dire non à des choses qui font aucun sens aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette belle présentation-là. J'invite tout le monde à venir au ITSEC justement pour voir tes deux interventions qui vont être très intéressantes parce que le beau-frère est invité dans une des deux interventions. Et sur ça, je te remercie énormément pour ce partage, c'est super intéressant.
Bien, merci beaucoup pour la présence aujourd'hui, pour l'opportunité de présenter aujourd'hui. Super apprécié.